Nous allons donc partager la parole de Dieu. Je profite, pendant qu'on prend ce psaume 95, que lorsque Dieu nous parle, il ne nous dit pas ce que nous avons envie d'entendre. Dans le monde, on fonctionne comme ça un petit peu. Dans la politique, c'est un petit peu comme ça. On fait de la démagogie, c'est-à-dire qu'on dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour essayer de gagner leur voix. C'est un peu comme ça que ça se passe dans le monde. Ça s'appelle la démagogie. Dans le royaume de Dieu, ça on n'a pas affaire à la démagogie, on a affaire à la vérité. Dieu ne nous dit pas ce qu'on a envie d'entendre, Dieu nous dit ce que nous avons besoin d'entendre. Vous êtes d'accord? Dans le psaume 95, au verset 6, il nous est dit ceci. Psaume 95, verset 6. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh !» Je répète, « Oh, c'est un soupir qui vient du cœur de Dieu. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Cette expression de Dieu revient dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, ce qui nous prouve que de tout temps, Dieu a eu du mal à pouvoir se faire entendre. Je ne parle pas avec les oreilles physiques, à moins que vous soyez atteint d'une surdité, vous entendez ma voix. Mais c'est une chose d'entendre avec les oreilles physiques, ça n'est une autre d'entendre avec les oreilles du cœur. Et parce que c'est trop facile de dire, mais j'entends ce que vous prêchez, j'entends bien qu'on vient de lire dans le psaume 95, le verset 6 et le verset 7. Je parle des oreilles spirituelles. On le comprend bien dans ce texte, Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. On le voit plus loin encore, au chapitre 4, au verset 7. On voit cette expression qui est pleine de miséricorde. Si vous la lisez pour la première fois, vous n'êtes pas obligé de la comprendre. Mais laissez-moi vous dire que cette expression, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, c'est une grande, grande preuve d'amour qu'aujourd'hui, Dieu est prêt à tout recommencer avec quelqu'un qui ne va pas bien, avec quelqu'un qui n'est pas sérieux avec la parole de Dieu. Un autre texte, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, dans l'église qui représente l'église de la fin des temps, une église qui s'est laissée endormir, attiédir, qui s'est laissée piéger par le service plus que par la communion avec Dieu. Ça, c'est un grand piège lorsqu'on est préoccupé plus par le service pour Dieu que par la communion avec Dieu. C'est ce qui est arrivé à cette église et le Seigneur se retrouve dehors. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais c'est la vérité. Il n'est pas loin, mais quand même, il est dehors. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Cette parole est répétée dans les sept lettres pour nous interpeller sur le fait que c'est une chose d'avoir des oreilles, ça n'est une autre d'entendre. Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Il veut nous parler, il sait où vous en êtes, chacun. Il sait où nous en sommes. Il voit celui qui est fervent. Est-ce que Dieu peut avoir une parole pour celui qui est fervent? Bien sûr. Est-ce que Dieu peut avoir une parole pour celui qui est tiède? Bien sûr. Est-ce que Dieu a une parole pour le pécheur qui est là ce matin, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, qui a confondu Dieu avec la religion? Si vous en êtes là, c'est que vous avez besoin de le rencontrer. Quand on juge Dieu au travers de la religion, je peux vous dire qu'on ne le connaît pas. Dieu a donc une parole pour le pécheur, Dieu a une parole pour le chrétien qui est tiède, Dieu a une parole pour le chrétien qui est zélé. Et Dieu sait comment parler à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est un mot qui bien sûr, nous interpelle dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, ça veut dire que, comme je viens de le dire, Dieu peut tout recommencer avec celui qui ne va pas bien. C'est un mot qui nous prouve que le temps passe aussi et qu'il ne faut pas user de cette patience, mais également que on va un jour le rencontrer. Aujourd'hui, nous ramène à cette évidence, je vais bientôt le rencontrer. Vous en êtes conscient. Quel que soit votre âge, ne jouez pas avec votre âge en disant « moi je suis jeune, j'ai encore certainement quelques décennies à vivre ». Vous ne pouvez pas dire ça. Ça tient debout, parce que la moyenne, la longévité augmente, ça tient debout humainement, mais ça ne tient pas debout spirituellement. Parce que si Dieu vous reprendre ce soir, il peut vous reprendre. Oui ou non? C'est lui qui décide, c'est pas vous, c'est pas votre docteur qui va vous dire « ah bon, votre tension s'est améliorée, je pense que vous en avez encore pour 40 ans ». Écoutez, votre docteur, il est entre les mains de Dieu aussi, croyez-le. On voit un Dieu qui répète cette phrase « oh, si vous pouviez, écoutez, oh, si vous entendez ma voix ». Dans le temps de l'Ancien Testament, comme dans le temps du Nouveau Testament, et je vous pose cette question, la voix de Dieu atteint-elle votre âme? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, est-ce que ça nourrit votre âme? Est-ce que vous dites « oh, que ça me fait du bien ». Oh, que ça me fait du bien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui, demain matin, quand je vais prendre le texte que je vais prendre, le psaume que j'aime lire, peut-être tel épître que je n'ai pas encore médité, mais quel que soit le texte que je vais lire, est-ce que je peux dire, ah, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, Dieu a nourri mon âme. Si vous entendez sa voix. Et même si on entend, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ça aussi. C'est une chose d'entendre, mais même une fois qu'on a entendu, est-ce qu'on tient compte de ce que Dieu nous dit? Vous comprenez bien que ça aussi c'est autre chose. Combien de fois, franchement, on ne le dira à personne, mais combien de fois Dieu nous a parlé et on n'a pas tenu compte de ce qu'il nous avait dit? On l'a vécu avant la conversion, chaque fois qu'on a été convaincu de péché. On savait très bien que si on devait mourir, on partait en enfer, et pourtant Dieu nous a gardés. Mais on l'a vécu, on le discerne mieux par rapport au temps avant la conversion, où on était convaincu de péché, et chaque fois on faisait comme si rien n'était. On faisait comme si Dieu ne nous avait pas parlé. On analyse bien avant la conversion. Mais après la conversion, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais combien de fois Dieu nous a parlé? Combien de fois? Vous connaissez l'adage bien connu? Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Aujourd'hui, 9 janvier 2011, où on en est? Hier, ça allait bien? Peut-être ça n'allait pas bien. Quand je dis hier, c'est dans le passé. Le passé proche, le passé qui est là. L'année 2010. Ça allait bien ou ça n'allait pas bien? Mais qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Puisque Dieu dit, Dieu fixe de nouveau un jour. Ce sont des paroles, vous savez, importantes. C'est très rassurant, parce que Dieu nous montre qu'il est capable de passer l'éponge et de dire, bon, maintenant on recommence. Mais on ne va pas jouer continuellement avec la patience de Dieu. Ça risque de se terminer très mal. Peut-être que vous étiez léger en 2010. Léger avec la parole de Dieu. Les hommes, j'y reviens parce que c'est quand même un sujet qui me préoccupe. Peut-être que vous avez été léger avec le culte en famille, avec peut-être votre place en tant que frère dans l'église, en tant que homme que Dieu appelle pour vraiment relayer les anciens qui dans l'église ont besoin d'être relayés. Peut-être que vous avez été léger et que vous n'avez pas changé. Peut-être que vous étiez bouillant hier. Merci Seigneur, il y en a. Il y en a des gens qui sont bouillants et qui veulent le rester. Et qui ont besoin d'une parole de Dieu pour continuer à être bouillant. Oui, ce verset nous montre que ce qui compte le plus, c'est que nous soyons toujours prêts à rencontrer Dieu. Donc, une parole pour les chrétiens fervents. Je pense à Marthe et à Marie. Est-ce que Marthe et Marie étaient des chrétiennes ferventes? Est-ce que Dieu a eu une parole pour elles? Dans un moment difficile d'ailleurs. Vous vous rappelez, lorsque Lazare est mort, le Seigneur, au bout de 4 jours, est arrivé, il avait une parole pour ses bien-aimés. Elles allaient bien, mais c'est pour vous dire que même quand ça va bien, malgré la souffrance, parce que c'est pas parce qu'on va bien qu'on n'a pas d'épreuve, c'est pas parce qu'on va bien spirituellement qu'on n'a pas de difficultés. La preuve, c'est que la maison de Marthe, Marie et Lazare à Béthanie a été certainement la maison la plus bénie de l'univers. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque c'est là que Jésus allait lorsqu'il allait se reposer, c'est certainement la maison qui a été, oui, le plus bénie de l'humanité. Et pourtant, dans cette affaire, dans cette histoire, il y a eu un deuil. Et Jésus est arrivé, pas comme elle l'aurait souhaité, mais Jésus est arrivé au moment où il avait une parole pour chacune d'elles. Bien sûr qu'elles étaient là dans la douleur, et peut-être, et ce n'est pas, je le répète, parce que vous êtes dans la douleur, que vous n'êtes pas spirituel ou que vous n'êtes pas fervent. Et c'est pas parce que tout, il n'y a aucun problème que vous êtes spirituel. Il ne faut pas mélanger les genres. Une chose est sûre, c'est que Dieu, il sait la parole que vous avez besoin d'entendre. Lorsque Marthe a rencontré Jésus, à un moment donné, Marthe va faire dire à Marie, le maître est ici. Et il te demande, le maître, c'était pas le patron du lundi matin, c'est le maître du ciel et de la terre. Et ce matin, nous n'avons pas affaire aux assemblées de Dieu, à une église évangélique, nous avons affaire au maître du ciel et de la terre. Est-ce que vous avez affaire au maître de l'univers? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir affaire à Dieu? Vous voulez vous focaliser sur l'église évangélique? Ou est-ce que vraiment c'est sur le maître, le Seigneur Jésus? Le maître est ici et il te demande. Vous savez ce que Jésus voulait faire ce jour-là? Qu'est-ce qu'il avait comme parole? Il avait une parole de bénédiction. Et Dieu sait, ce matin, c'est peut-être un reproche que Dieu a à vous faire. Vous allez l'accepter si ça vient de Dieu. C'est peut-être une promesse qu'il veut vous rappeler. C'est peut-être une consolation, parce que vous êtes dans l'affliction. Ou plusieurs choses en même temps. Mais l'histoire de Lazare, elle est là pour nous montrer que même quand on est bouillant et quand on est fervent, Dieu a une parole pour nous. Et la parole que Jésus a adressée à ses deux sœurs, c'est « Je suis la résurrection et la vie ». Est-ce que vous savez que Jésus est la résurrection? La mort est autour de nous, on voit que ça. Et on n'a pas voulu de Dieu, il ne faut pas s'étonner. Il est le prince de la vie, on n'a pas voulu de Jésus. C'est normal que la mort rôde autour de nous. On n'a pas voulu de Jésus, il est le prince de la paix. C'est normal qu'il n'y ait pas la paix. Et ainsi de suite. Mais nous les chrétiens, nous avons offert au maître. Le maître il est ici, et il demande peut-être à quelqu'un ce matin, mais est-ce que tu veux pas que je contribue avec toi? Que je veux travailler à la résurrection de ton frère, qui est peut-être mort. Est-ce qu'il n'y a pas des morts autour de nous, des chrétiens qui sont morts? Je ne parle pas des chrétiens qui sont décédés physiquement. Je parle des croyants qui sont décédés spirituellement, qui n'ont plus de communion avec Dieu. Et Jésus s'est approché de Marthe et de Marie, et on voyait bien que son souci, c'était de révéler sa gloire, de nous enseigner qu'il est la résurrection. C'est bien de savoir que Jésus est la résurrection. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi, elle sert à rien. Et la résurrection de Jésus anticipe notre résurrection. Celui qui a Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Il l'aura pas. Il l'a déjà reçu, la vie éternelle. Donc, une parole pour deux sœurs qui sont bouillantes dans l'affliction, mais elles sont bouillantes. Et Jésus va leur dire, mais où l'avez-vous mis? Est-ce qu'on sait où sont ceux qui sont morts? On ne sait même pas où ils sont certains. Ils ont rétrogradé, on a perdu de vue, on ne sait même pas où ils sont. C'est vrai ou c'est pas vrai? Seigneur, tu le sais, où ils sont. Il y a des morts à Toulouse, des chrétiens qui devraient être ici ou dans d'autres lieux de culte. Mais ils sont peut-être à la chasse ou ils sont peut-être en train de dormir. Ils ne pensent pas à l'éternité. Et cette parole de Marthe, que reçoit Marthe et que reçoit Marie, sont des paroles qui nous montrent que si quelqu'un est mort, si quelqu'un est atteint par un péché ou par une épreuve quelle qu'elle soit, Dieu veut nous faire contribuer à la résurrection. Est-ce que vous aimeriez qu'en 2011, nous voyions des résurrections? Est-ce que vous aimeriez que des rétrogrades reviennent, que dimanche prochain, pas lui dire, qu'est-ce que tu fous là? Je croyais que tu étais mort. Vous voyez, on peut travailler un peu mieux à l'accueil des rétrogrades. Je l'ai entendu ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la cure d'âme. Mes frères et sœurs, c'est une double victoire quand un rétrograde revient à l'église. Est-ce que vous le savez? C'est une double victoire. Et cette parole de Dieu à Marthe et à Marie est une parole pour les chrétiens zélés qui veulent voir et contribuer à la résurrection des morts. Seigneur, oui, je dis oui. Qui c'est qui dit oui à la résurrection des morts? Qui c'est qui dit oui, je veux contribuer? Oui, je veux enlever la pierre. Parce qu'il y avait une affaire là-dedans, il fallait ôter la pierre. Jésus pouvait le faire, mais il y a des choses que Dieu ne fait pas. Ce que Dieu nous demande de faire, il ne le fait pas. Quand Jésus demande à quelqu'un de se repentir, il ne peut pas le faire à votre place. Quand Jésus dit « ôtez la pierre », ça veut dire il y a peut-être des obstacles dans ma vie de prière, il y a une défaillance, ma vie de je ne sais pas. On le sait en plus. Si on est soucieux de notre communion avec Dieu, on sait ce qui peut encore nous gêner. Le maître, il est là, mes frères, mes sœurs, bouillantes. Mes frères qui êtes bouillants, ils vous demandent pour participer à la résurrection des morts qui nous entoure, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui est mort. Moi, dans ma famille, ils ont presque tous rétrogradé. C'est affligeant. Je sais pas si plusieurs sont dans mon cas, mais ça fait une peine de voir des gens qui ont pris le baptême, qui ont promis d'être fidèles, et quand vous les voyez dans les repas de famille, vous languissez qu'une chose, c'est de rentrer à la maison. C'est quand même dommage, mais ça se passe, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu peut les sauver? Est-ce que Dieu il peut les toucher? Eh bien, contribuons, que nos réunions de prière soient des réunions de foi et de victoire. À des moments, on a peut-être besoin de déverser sa peine, c'est pas interdit. On le voit plusieurs fois dans l'évangile ou dans les psaumes. Je répands ma plainte devant l'Éternel, mais après, je crois qu'il faut prendre la victoire et dire, Seigneur, maintenant, je crois que tu es la résurrection et la vie, et que tu vas ressusciter mon frère, ou que tu vas ressusciter ma sœur, ou ce frère que je ne connais peut-être pas, mais il est là, on l'a mis là, il est dans un coin de la ville, je sais qu'il est là, dans le quartier de Toulouse. Seigneur, tu vas le ressusciter. Alléluia. Les chrétiens bouillants, ils ont besoin d'une parole, bien entendu. On doit prier, mes frères et sœurs, on doit prier. On ne doit pas être de ces chrétiens qui sont pas sérieux, moi j'ai pas le temps de prier, moi je prie pour moi, c'est déjà bien. Eh bien, je vais vous dire, si vous avez que 10 minutes pour prier, eh bien, ne priez pas pour vous. Écoutez-moi. Si vous ne vous prenez que 10 minutes pour prier, priez pour les autres. Écoutez-moi. Parce que ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit pas prier chacun pour soi. La Bible dit prier les uns pour les autres. Vous qui êtes peut-être très affairés, oui, vous avez qu'un quart d'heure le matin. Eh bien, pensez aux autres. Et vous verrez. Et vous verrez si ça ne plaît pas au Seigneur. Je crois qu'on prie pour les frères. Tout à l'heure, on va avoir un moment de prière. Vous pouvez rester demi-heure. Peut-être que vous avez à cœur des... Je sais pas, moi. On a parlé de monsieur, madame, vous voyez, Bordeneuve. Mais peut-être que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est ailleurs. Et vous l'avez à cœur. Eh bien, restez. Même si c'est qu'un quart d'heure. Et prions ensemble. C'est bien de partager les fardeaux les uns les autres. On est une famille. Et ne disons pas, les autres prieront, moi j'ai pas le temps. Ça c'est pas, j'aurais pas dû le mettre dans les exhortations des chrétiens bouillants, ça d'ailleurs. Ne faites pas comme un certain que vous connaissez, enfin il y a longtemps que vous le connaissez, qui a dit, suis-je le gardien de mon frère? Vous connaissez qui c'est? Suis-je le gardien de mon frère? Les autres, moi, franchement, c'est pas mon affaire. Enfin, on peut le dire de plusieurs façons. Mais ça n'a pas beaucoup plu à Dieu, cette affaire. Oui. Nous devons nous protéger les uns les autres. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et ce sont des paroles comme ça que Dieu a voulu glisser dans sa parole pour que nous comprenions bien l'importance de ne pas nous laisser piéger. Marthe et Marie avaient besoin d'une parole, Dieu la leur a donnée, et ça a contribué, bien sûr, à la bénédiction. Si vous entendez ma voix, alors il n'y a pas que les chrétiens bouillants, hélas. Il y a des chrétiens qui sont fait piéger comme les chrétiens de l'église de l'Odyssée qui étaient, ils étaient éteints, ils étaient tièdes. Et pourtant, ils faisaient plein de choses pour Dieu. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Le piège dans lequel nous pouvons tomber, ce sont des croyants qui avaient du zèle. C'est bien d'avoir du zèle. Ils faisaient certaines choses pour Dieu et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus et de l'autre côté de la porte, il n'est pas du bon côté. On se demande comment ça peut arriver. Et ça, c'est dans cette église de la fin des temps, c'est la dernière fois où il est fait question de l'église, à part la dernière prière à la fin de l'Apocalypse, où on voit l'esprit et l'église et l'épouse qui disent « viens », c'est la dernière fois où il est fait mention de l'église dans la Bible. Donc ça nous prouve que c'est bien adressé à l'église de la fin des temps. Ne dites pas comme certains qui ont dit « Oh, mais c'était pour les Laodicéens ». Si ça avait été que pour les Laodicéens, il n'y aurait que les Laodicéens qui auraient reçu la lettre. Elle ne serait pas dans la Bible. Si elle est dans la Bible, c'est que c'est pour tous les chrétiens du monde entier. Vous êtes d'accord avec moi? C'est évident, ça s'appelle la logique, je veux dire. Si c'était pas pour nous, ça ne serait pas dans la parole de Dieu. Si quelqu'un entend ma voix, on voit que le Seigneur quand même est attristé de voir que dans une église où on fait plein de choses pour lui, il n'y a pas de communion. Il n'y a plus de communion. On ne sait pas ce qui s'est passé. On voit bien qu'ils se sont trompés. Ça s'appelle l'illusion. Ils croyaient que ça allait bien et ça n'allait pas. Il dit, tu crois que, si vous avez la Bible toujours ouverte, hein, au verset 17, parce que tu dis, vous savez ce qu'on dit, c'est une chose. J'en parlais hier matin aux hommes. Vous savez, l'humilité avec la bouche, c'est facile. Par les paroles. Être humble en parole. Vous êtes d'accord avec moi? Mais l'humilité du cœur, c'est une autre paire de manches. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Voyez, elle ne savait pas. Elle disait certaines choses, et ça peut nous arriver. J'espère que je m'adresse à beaucoup de chrétiens qui sont bouillants. Mais je sais que si Dieu m'a mis cette parole à cœur, c'est qu'il y a dans l'assemblée des chrétiens tièdes. Et bien sûr, Dieu vous aime. C'est une église qui était aimée du Seigneur. Vous avez vu le verset 19 ? Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ce n'est pas parce qu'on est tiède que le Seigneur ne nous aime pas. Bien au contraire, le Seigneur voit notre état d'éloignement et il veut nous manifester son amour. Les reproches de Dieu ne sont pas des paroles pour nous effrayer. Les reproches de Dieu sont des paroles pour nous ramener. Avec beaucoup de cœur, quand on connaît le Seigneur, on a compris ces choses. Si vous entendez ma voix, si quelqu'un entend ma voix, on l'a vu dans le psaume 95, oh si vous pouviez, qui entendez-vous ce matin ? Est-ce que vous entendez le pasteur qui prêche régulièrement dans cette église ? Ou est-ce que vous entendez, au travers de la prédication, le Seigneur Jésus lui-même vous dire « Mais je connais ton état de tiédeur, je t'aime malgré tout, je t'aime, tu te trompes, tu crois que ça va, parce que tu as fait quelques progrès. » Mais vous savez, c'est pas parce qu'on a fait quelques progrès, c'est pas parce que Dieu nous a bénis davantage, peut-être matériellement, et que financièrement je peux donner davantage, c'est bien, et c'est formidable. Mais la communion avec Dieu, mes frères et sœurs, c'est autre chose. Le Seigneur n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il y a des gens qui sont éloignés de Dieu. Il y en a peut-être, c'est pour la troisième catégorie. Mais il y a des chrétiens, on voit bien, Jésus n'est pas loin. Il est juste de l'autre côté de la porte. C'est quand même bien. Et en même temps, c'est dommage. Il est là. Il est prêt. Mais il n'y a pas de communion. Et ça, c'est un dilemme qu'il faut absolument réglé. Il y a une porte. Elle s'est fermée. Qui l'a fermée? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est un courant d'air? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Jésus s'est-il retrouvé dehors? Et j'espère que dans notre assemblée, c'est pas le cas. Ça serait un drame si nous apprenions que Jésus est dans la rue. Vous êtes d'accord avec moi? Ça serait un drame. Mes frères et sœurs, j'espère que le Seigneur est au milieu de nous. Et qu'il peut bénir. Et qu'il peut nous parler. Et qu'il peut nous nourrir, parce que ce qui caractérise vraiment que Jésus est au milieu de nous, c'est qu'on est nourri. J'entrerai et je mangerai et je souperai avec eux et eux avec moi. À quoi reconnaît-on un cœur qui est en communion avec Dieu? Il est nourri. Dieu a des mets succulents et gras. Moi, j'ai peut-être pas grand-chose à lui donner, mais lui, il a de la nourriture à me donner. J'ai pas grand-chose, moi. J'ai à te donner ce matin dans ma corbeille, il y a du chagrin. En fait, je sais pas ce qu'il y a dans votre corbeille. Mais lui, il a tout, tout pour vous bénir. Et il faut régler ce problème, la tiédeur, c'est ça. Je n'ai pas de communion avec Dieu. Il est là, il est tout près, je l'entends. Je pensais en préparant cette prédication aux portes de prison. Vous savez, ces portes-là en fer, où pour faire passer la nourriture, là il y a un petit trapanel, là, et hop, on fait passer l'écuelle avec la soupe. J'ai dit, Seigneur, voir la main du Seigneur, c'est bien, c'est bien. Mais je crois que quand on mûrit avec Dieu, on ne veut pas sa main, on veut sa face. C'est lui qu'on veut. C'est pas que sa main bénie, que ses bontés, que ses faveurs. Seigneur, fais-moi passer. Fais-moi passer. Fais-moi passer quelques bénédictions. Fais-les passer sous la porte, Seigneur. Non. Je crois qu'un vrai chrétien, qui est sérieux, dans son cœur. Oui, oui.
Je sais, on en a eu quatre. Je veux dire.
Un chrétien, il veut pas la main de Dieu, il veut la personne du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux ta présence. Oui, Dieu sait ce qu'il a à nous dire. Dieu sait ce que nous avons besoin d'entendre. Si vous n'avez pas de communion avec le Seigneur, réglez cette affaire. Pourquoi ? Pourquoi ? Quelqu'un pourrait me dire, mais je suis sauvé. Je suis sauvé. On ne peut pas dire que ces chrétiens étaient tous perdus. Quoique ils étaient quand même mal. Vu ce que le Seigneur leur dit, vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus. Cette porte à laquelle Jésus frappe depuis 3 mois, depuis 1 an, depuis plus, cette porte, s'il y a quelqu'un qui sait qu'un jour elle sera définitivement fermée, c'est bien le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? La porte, elle est ouverte. Jour de grâce, aujourd'hui, c'est la grâce. La porte est ouverte. Vous l'avez peut-être fermée, mais elle peut s'ouvrir. Mais un jour viendra où cette porte sera fermée. Vous connaissez la parabole des vierges folles, qui se sont des vierges, hein, et de ces vierges folles qui n'ont pas veillé, qui ne savaient plus qu'elles avaient besoin de réserves d'huile et qui ont cru que ça permettrait, que leur piété leur suffirait pour arriver à rencontrer le Seigneur. Et il y a beaucoup de chrétiens, mais non, mais moi ça va, je maintiens ma piété suffisamment pour arriver jusqu'au retour du maître. Mais voilà, la porte s'est fermée. Et quand elles ont frappé, c'est la folie ça, parce que Jésus frappe, on n'ouvre pas. Mais quand nous on va frapper, ça sera trop tard. Je ne vous connais pas. C'est sérieux cette affaire, parce que cette porte, elle est là. Le Seigneur est tout prêt, mais c'est l'enfer, ça va être terrible pour les gens qui auront eu toute leur vie le Seigneur Jésus à la porte, et ils ont dit, mais j'étais si près. Et j'ai pas écouté quand Dieu me parlait. Je faisais tellement confiance à sa patience. Je faisais tellement confiance à sa bonté. Et c'est vrai, vous pouvez faire confiance à sa patience et sa bonté. Mais Dieu peut nous reprendre. Et le Seigneur peut revenir. Et combien entendront « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas ». La parabole, vous savez, c'est pas une parabole. C'est justement l'enseignement où un homme a dit à Jésus « Mais ça vient d'où qu'il y a peu de gens qui soient sauvés ?» Et Jésus a dit « Entrez par la... Efforcez-vous d'entrer par la porte. » Car un jour viendra où beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, plusieurs diront en ce jour-là, mais Seigneur, on a mangé avec toi. On était avec toi tous les dimanches, tous les samedis, à la synagogue, on venait t'écouter, qu'est-ce que c'était bien. Jésus leur dira, je ne vous connais pas. La porte, oui, vous pouvez l'ouvrir. Ce matin, par un acte de foi, c'est un acte de foi. Seigneur, ça coûte pas grand-chose. Seigneur, j'ai pas de communion avec toi. Eh bien, je règle ce problème. J'ouvre la porte. Et tout à nouveau, je reprends mon culte. Non pas mon culte religieux. Je lis pas parce qu'il faut que je lise. Je vais pas à l'église parce qu'il faut que j'aille à l'église. Je prie pas parce qu'il faut prier. Non. Ça va être quelque chose de vrai. Oui, Dieu a une parole pour les tièdes. Ouvrez la porte aujourd'hui. Vous entendez sa voix? Est-ce que vous entendez dans votre cœur ce problème qu'il faut absolument régler? Ou est-ce que vous avez envie d'entendre « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, aujourd'hui si vous entendez sa voix. » Un cœur partagé, c'est un cœur terrible, c'est ça, le cœur partagé, la tiédeur, c'est ça. J'aime Dieu, mais je l'aime. Mais j'aime le monde. J'aime le Seigneur, mais les choses de la terre, ah, ça me plaît. C'est ça un cœur partagé, c'est ça être tiède. Et il faut pour vraiment régler ce problème. C'est comme ça que l'on devient froid, parce qu'un cœur partagé, avec le monde aujourd'hui, est un cœur qui sera tiède et puis un cœur qui sera froid. Quand on est partagé avec le monde, ça ne va pas durer longtemps. Un cœur qui résiste aujourd'hui est un cœur qui sera endurci demain. Pourquoi Dieu dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur fixe un jour, c'est une affaire de grâce, c'est extraordinaire. Dieu fixe un jour, aujourd'hui. Mais si vous n'écoutez pas, votre cœur s'endurcira. Vous direz, non, ça ira mieux quand j'aurai fini mes partiels. Ça ira, non, d'accord, d'abord je m'occupe de mon entreprise, parce que ça c'est archi important. D'abord je m'occupe de la voiture. Écoutez, occupez-vous de votre affaire, occupez-vous de vos partiels, occupez-vous de votre voiture, dans la mesure qu'il faut, mais occupez-vous d'abord de votre âme. Parce qu'un cœur qui n'écoute pas aujourd'hui, c'est un cœur qui s'endurcira demain. C'est écrit dans la parole de Dieu. Un frère faisait allusion à la prière à Pharaon. Mais on peut s'endurcir, vous le savez. On peut s'endurcir. Et il vous aime. Et il est là à la porte. Moi, je suis bouleversé par cette histoire. Il est là. Vous attendriez combien de temps, vous, quelqu'un qui vous fait attendre à la porte? Combien de temps vous attendriez? Combien de temps? 5 minutes, 1 quart d'heure, 2 heures? Combien vous frapperiez à la porte? 2 jours, 3 jours? Dieu, il attend. Il attend que son nom soit béni. Pourquoi il attend? Pour un repas. Il n'attend pas pour vous faire un sermon. Il attend pour un repas. Personne ne dit amen. Personne ne dit alléluia. Vous rendez compte? Pourquoi il vous attend? Pourquoi il frappe? Pourquoi il fait tout? Pourquoi il dirige pour que des prédications tournent autour de ce sujet? Pourquoi Dieu fait ces choses? Pour vous offrir un repas. Quand même. Qui pourrait ce matin s'autoriser à dire non, j'en veux pas. Quand même, dans quel état un chrétien est-il? S'il dit moi un repas, non, j'en veux pas.
Mes frères et sœurs, quand même, vous ne trouvez pas que notre Dieu, il est bon? Il vous attend pour un repas. Demain matin, qui veut se rassasier dans la présence du Seigneur, dans la communion avec Dieu? Ouais. L'enfer, ça sera certainement cette épreuve terrible d'avoir eu le Seigneur à la porte et de ne pas lui avoir affaire. J'avais qu'un geste à faire, qu'un mot à prononcer, qu'un acte de foi. Et je ne l'ai pas fait. J'aimais le monde. Voilà ce qui se passera pour beaucoup. Troisièmement, ceux qui sont perdus. Dans cet auditoire, il y a certainement des personnes qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Des personnes qui ne se sont pas intéressées à l'éternité, au salut de leur âme. Vous avez peut-être un peu de religion et vous pensez que ça suffit. Non, pour aller au ciel, il ne faut pas une religion. Pour aller au ciel, il faut une conversion et une véritable repentance. Et Dieu a une parole pour vous. Je le répète, Dieu a une parole pour les bouillants, Dieu a une parole pour les tièdes et Dieu a une parole ce matin pour les perdus. Vous n'avez peut-être jamais entendu l'évangile. Demain, au service d'inhumation, il y aura certainement beaucoup de paroles pour ceux qui sont perdus par rapport à l'importance de se préparer à rencontrer Dieu. Aujourd'hui, vous n'êtes pas nombreux peut-être dans ce lieu à être perdus, mais Jésus vous appelle. Vous êtes là, vous êtes comme cet aveugle. Vous savez, Bartimée, il était sur le bord du chemin. Il était à côté, vous n'êtes pas encore sauvé. Pas parce que vous êtes dans une église que vous avez fait la paix avec Dieu. Vous êtes au bord du chemin. Et ce Bartimée, quand il a compris qu'il avait affaire à Jésus et non pas à une religion de plus, eh bien il a crié. On a essayé de le faire taire et Jésus s'est arrêté. Et Jésus a donné une parole à cet homme perdu par un ami. Prends courage, lève-toi et t'appelle. Et il s'est arrêté. Comment ça? Le Seigneur Jésus s'est arrêté pour un minable aux yeux de la société, qui était là, mendiant, miséreux. Est-ce que Jésus peut s'arrêter dans votre vie ce matin? Eh bien oui, il peut s'arrêter. Il a le pouvoir de s'arrêter. Il peut bénir un président, il peut bénir un roi, il peut bénir un clochard. Dans l'éternité, on se rendra compte que c'était pas ça la grosse affaire. Hein. Croyez-moi. Mais il a une parole, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Vous croyez que ce Bartimée, c'était un super gars? Peut-être c'était un misérable. Que l'amertume, la chagrin, la douleur à cause de faire la manche l'avait rendu aigri. Comment était-il cet homme? Est-ce qu'il avait droit à la grâce de Dieu? Vous êtes aigri, vous n'êtes pas content, vous êtes en colère, vous êtes rebelle, vous êtes contre la religion. Mais prends courage. Il t'appelle. Il veut te sauver. Vous qui avez blasphémé jusqu'à aujourd'hui, eh bien oui, Dieu, il peut vous sauver. Vous qui ne savez pas que la piété est une source de joie. C'est pas écrit quelque part? Que la piété est une source de joie? Un mot du Seigneur. Aujourd'hui, il t'appelle. On a des cantiques dans les ailes de la foi ou dans les... Pardon. Qui rappellent ce que je vous enseigne ce matin. Il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Viens, cœur rebelle. Enfin, il y a des paroles extraordinaires qui nous montrent que oui, Dieu a une parole. Il a une parole pour les chrétiens qui sont bouillants. Béni soit Dieu. Il a une parole pour les tièdes. Et il a une parole pour les pécheurs perdus. Une parole, vous qui êtes écœurés par la religion. Vous qui avez dit, plus jamais je mettrai les pieds dans une église. Vous croyez que Dieu, il a dit, ah, qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Plus jamais, allez, de côté. Vous croyez que Dieu, il marche comme ça? Nous, on est comme ça. Mais vous pouvez avoir dit des choses que vous regrettez. Le Seigneur, il saura vous appeler. Parce que vous n'avez pas été écœuré de Dieu, en vérité. Vous avez été écœuré de la religion ou de ceux qui représentaient Dieu. Vous avez été peut-être déçu par les églises, scandalisé par des chrétiens qui ne l'étaient que de nom. Est-ce qu'un chrétien peut ne l'être que de nom? Il y en a. Et parfois, hélas, ici, ça arrive que je doive dire à certains, vous êtes chrétien de nom. Voilà, c'est pas, ça me brise le cœur, mais il faut quand même éclairer ces gens qui n'ont qu'une piété de façade. Eh bien oui, vous qui avez été déçu, écœuré, scandalisé, vous pouvez le prier. Et dire, Seigneur, ce matin, sauve-moi, là, pendant que vous écoutez. À votre place, vous pouvez dire, Seigneur Jésus, si je dois affaire à ce Dieu qui, malgré tout ce qu'on peut faire, continue à nous aimer, continue à frapper, continue à parler, moi, ce Dieu-là, j'en veux. Eh bien, Dieu, il va vous sauver. Il vous appelle, c'est sérieux. C'est beaucoup plus sérieux que ce que vous le pensez. L'éternité, c'est la chose la plus sérieuse à régler sur la terre. Peut-être qu'il vous a déjà appelé. Vous n'avez pas répondu. Il vous appelle. Pas pour faire chauffer une chaise dans une église de plus. Il vous appelle pour vous sauver. Parce que seul le sang de Jésus peut vous purifier et vous pardonner. Est-ce que vous avez reçu le pardon? Vous avez vu notre société? elle va se détruire, s'auto-détruire. Il est parlé dans l'Apocalypse que Jésus va venir pour juger ceux qui détruisent la terre. Mais les chrétiens, ils sont gardés. Alléluia. Et Dieu veut sauver même ces gens qui sont dans le péché. Il veut vous sauver aujourd'hui. Aujourd'hui, vos yeux peuvent s'ouvrir. Dans ce monde de ténèbres, vous pouvez être remplis d'espérance. Il y a des chrétiens ici qui, malgré ce qui se passe, sont pleins d'espérance. Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Vous pouvez dire, mais ouais, c'est ça craint, comme les gens ils disent. Mais moi, mon cœur, il est plein d'espérance. Je sais où je vais. Moi, mon objectif, c'est pas le cimetière. Mon objectif, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire du Seigneur. Oui, aujourd'hui, les chrétiens fervents, ils vous appellent pour participer à la résurrection des morts spirituels. Et nous devons avoir une église qui est bouillante, une église qui est vivante. Nous avons au cœur de la semaine, le mardi soir, une réunion de prière, une réunion d'évangélisation. Nous devrions bichonner cette réunion et dire, voilà, cette réunion, on va y participer. On va travailler à la résurrection des morts de Toulouse. On va travailler à ce qu'ils ressuscitent tout nouveau. Et que ces gens viennent à la foi. Oui, moi je suis un chrétien tiède. Tu frappes, ma lampe est vide, mon cœur est vide. Mais je comprends ce matin combien tu es là. Et tu vas pas rentrer dans mon cœur pour me blâmer. Tu vas rentrer pour me fortifier et pour me nourrir. On a un vieux cantique qui dit, serait-ce la dernière fois? Aujourd'hui il t'appelle, serait-ce la dernière fois? Ça nous arrive. On ne le répète pas souvent parce que ça pourrait être très mal interprété. Mais ça arrive souvent que des personnes écoutent l'évangile et on apprend qu'après elles ont été enlevées, elles sont parties dans l'éternité. Et on ne sait pas si elles se sont converties. Soyons honnêtes. Combien de fois Jésus a frappé à la porte de notre cœur? Hein? Ce matin, il cherche quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, je suis prêt, Seigneur, à être plus bouillant? Je suis prêt à ouvrir la porte. C'est pas grand-chose que Dieu nous demande. Il ne demande pas de trouver des combinaisons parce que la porte a été verrouillée par un système d'alarme. Tout simplement ouvrir. Il pourrait nous faire attendre. Ouvre la porte. Mon frère, ma sœur, toi qui es tiède. Vous rappelez, hier je méditais, je termine avec cette pensée. Hier je méditais une prédication. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, dans bien des endroits, quand on parle des chrétiens qui ont du zèle, on parle des chrétiens la première année de leur conversion. Vous avez compris ce que je voulais dire? Ah, il est zélé. Ah, il n'y a pas longtemps qu'il est converti. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Je pensais à ça. Ça lui passera. Mes frères et sœurs, le zèle que nous avions la première année de notre conversion, en ouvrant la porte, nous le retrouverons. Avec de l'équilibre, parce qu'au début, on n'a fait que des âneries. Hein? Vous rappelez? On pensait qu'on allait convertir tout le monde, et on s'est pris quelques revers. Vous rappelez le début de votre conversion? Hein? Quand on a du zèle, sans la connaissance, le bien qu'on fait aux gens. Hein? Bon, mais aujourd'hui, nous avons quand même de la connaissance, et nous savons comment parler, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Le Seigneur quand même nous donne une certaine sensibilité par rapport à la connaissance que l'on a reçue également. Mais je termine donc. Mes frères et sœurs, vous qui êtes bouillants, participez à la résurrection des morts. Vous qui êtes tièdes, ouvrez la porte et Dieu va vous nourrir. Il y a quelqu'un qui dit oui? Il y a quelqu'un qui dit oui? Je dis oui, moi, cette prédication. Y a-t-il un pécheur qui dit, mais moi aussi? Moi aussi, je dis oui. Moi qui jugeais Dieu au travers de la religion, j'ai compris ce matin que c'était pas ça qu'il fallait faire. Vous allez évaluer Dieu au travers de la parole. Et vous allez voir que ce n'est pas le Dieu de votre religion, ni de la nôtre que certains pourraient vous présenter. Il est le Seigneur. Y a-t-il un pécheur qui répond? Je viens à toi, on ferme les yeux quelques instants. Y a-t-il un croyant qui dit oui? Moi je réponds. Je prends du service. Je reprends du service. Ma maison, ça sera la maison de prière. Y a-t-il un chrétien fervent qui obtempère, qui dit bon si, je vais collaborer tout à nouveau pour le salut des âmes davantage. Vous savez ce qu'on va faire? On reste les yeux fermés. Je m'adresse aux chrétiens bouillants, je m'adresse aux chrétiens tièdes, et je m'adresse aux pécheurs perdus. Peut-être que vous pouvez répondre à cette prédication en levant la main à votre place. En levant votre main, en disant, Seigneur, j'obtempère. Je suis d'accord. Dieu vous voit, oui, Dieu vous a vu, tous ceux qui vont lever la main. Peut-être d'autres ont envie de lever la main. Et dire, Seigneur, c'est ma façon d'ouvrir la porte. Vous savez, Dieu, il regarde, c'est sérieux, c'est pas... C'est très, très, très sérieux. Dieu vous voit, oui, Dieu vous voit. Vous pouvez baisser la main une fois que vous l'avez levé. Vous dites, oui, j'obtempère. Oui, je suis bouillant, je te suis reconnaissant, Seigneur, mais j'ai besoin d'une parole. Oui, tu vas ressusciter les morts de ma famille, ça me convient. Alors je vais travailler. Et les tièdes, vous dites, voilà, moi je vais ouvrir la porte. C'est votre façon d'ouvrir. Dieu va vous aider. Vous ouvrez la porte, vous allez lire la Bible ce soir ou demain matin, et vous allez vivre ce que vous avez lu. Je souperai avec lui. Voilà, vous le vivrez. Vous croyez que Dieu va vous mentir ou tromper? Y a-t-il quelqu'un d'autre encore qui dit oui? Ou un pécheur qui dit, moi ce matin, je te donne ma vie. Je lève ma main, je cède à l'appel de la croix. Tu as versé ton sang. Ah, c'est ça la vraie religion? Oui, c'est ça. Que Jésus est mort pour vous sauver et vous pardonner. Y a-t-il quelqu'un d'autre peut-être qui éprouve le besoin de dire, voilà, peut-être encore une personne, voilà, baissez votre main. Quelqu'un qui dit, moi je veux, je suis d'accord Seigneur. Je suis pas d'accord avec le pasteur Go. Je suis d'accord avec ta parole. C'est selon la parole de Dieu qu'on en sera jugé. Y a-t-il encore quelqu'un qui dit, moi je veux bien. Oui, Dieu voit votre main levée, vous pouvez la rebaisser. Dieu vous voit. Quelqu'un qui dit, oui Seigneur. Dieu voit, Dieu l'a vu. Dieu voit vos mains levées. Y a-t-il encore quelqu'un qui dit, ah Seigneur, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord et je suis sérieux Seigneur. Oh, je veux pas te laisser, je veux pas te laisser de l'autre côté de la porte. Je veux pas juste une bénédiction qui passe de tout de temps en temps. Non, je te veux à toi, dans ma maison. Prions mes frères et sœurs. Prions. Seigneur Jésus, oui, nous croyons que lorsque tu veux nous parler, c'est par rapport à ce que nous avons vraiment besoin d'entendre. Tu vois ce lieu, tu nous y as sauvés, tu nous y attires, tu veux nous parler, tu sais ce qui est bon pour nous, Seigneur, tu sais ce qui est mal pour nous, tu sais, toi, la nourriture que tu veux nous donner, des mets gras et succulents, nous le savons. Nous croyons que tu as dans ton panier la paix, le pardon, la bonté, que tu as des multitudes de biens en réserve pour chacun des tiens. Toi qui as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Seigneur, tu as vu ceux qui ont levé la main. Tu as vu, Seigneur, leur décision de te dire oui, aujourd'hui. Et bien qu'ils aient la grâce de manger avec toi, de recevoir de nouvelles paroles, de nouvelles promesses, de nouvelles révélations de ta parole, et que les pécheurs qui ont levé leurs mains puissent véritablement s'engager avec toi dans les eaux du baptême, dans cette vie nouvelle. Oui, tu es un Dieu qui sauve, et tu es un Dieu qui guérit. Oui, tu es là ce matin encore pour entrer et pour te manifester. Et cette année, oui, nous voulons la vivre en coopérant avec toi, en travaillant avec toi, en voyant les morts ressuscités, en voyant cette ville être changée, en voyant les malades être guéris, les perdus être sauvés. Oui, dans nos familles, tu vois, Seigneur, tous les Lazares qui sont morts. Tu vois tous ceux qui sont là dans le péché, liés. Mais Seigneur, nous le savons, tu le feras. C'est toi qui l'as fait. Alors donne-nous d'enlever les pierres, d'ôter les portes, de fléchir le genou au calvaire. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Oui, tu as vu ses mains levées. Aide-les, Seigneur. Aide-les. Si nous, et nous, dans notre pièce, on n'a pas grand-chose à t'offrir, de toute façon, on sait que toi, tu as tout. Tu as tout pour nous nourrir et nous fortifier. Alors, Seigneur, pardonne-nous le peu de choses que nous avons à te donner. Et merci pour tout ce que tu as en réserve. Merci, merci du fond du cœur. Merci, Seigneur. Alléluia.